Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, il est 6h, temps universel. Merci de votre fidélité à la voix de l'Amérique. En direct de Washington, ce matin, depuis le Studio 13, Nicolas Pineau et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une en ce jeudi matin, l'épidémie d'Ebola qui progresse plus rapidement que prévu en Afrique de l'Ouest.
4 septembre 2013, un an déjà, Kibeka a été investi président du Mali. Pas de quoi célébrer selon les Bamakois.
Le panier de la ménagère au Mali, le panier souffre atrocement. Donc on essaie un peu de voir, de donner un peu de la valeur au panier de la ménagère.
Ouverture du sommet de l'OTAN au Pays de Galles sur fond de guerre en Ukraine.
Au Cameroun, Boko Haram alimente toutes les conversations.
Des groupes armés qui attaquent différentes localités. Nous sommes clairement dans une dynamique qui vise à installer une rébellion.
Sans oublier les sports en fin d'émission et le retour en musique de Roger Muntou. Mais tout d'abord, le journal, vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour.
L'Organisation mondiale de la santé appelle à une réponse mondiale coordonnée pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, a fait savoir que l'épidémie a déjà fait plus de 1900 morts sur au moins 3500 cas confirmés en Afrique de l'Ouest. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Margaret Chan a expliqué que dans les trois pays où la flambée d'Ebola est la plus intense, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, l'Organisation internationale veut inverser la tendance de l'infection dans les trois mois. Il est devenu une menace mondiale et nous avons besoin de mesures d'urgence et d'un mécanisme bien coordonné réunissant les pays concernés ainsi que des partenaires au développement d'autres pays, a déclaré la première responsable de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faudra plus de 600 millions de dollars et espère que la transmission de l'Ebola pourra être arrêtée dans les 6 à 9 mois grâce à la réponse internationale. Les experts ont averti que le virus Ebola pourrait se propager au-delà des 5 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été touchés. Si rien n'est fait, une 7e personne est morte au Nigeria de la fièvre hémorragique hier à Port-Akou, principale ville de la région pétrolière du sud-est du pays, selon le ministère nigérian de la Santé.
Et à Bangui, c'est ce jeudi que seront connus les seconds résultats du prélèvement effectué hier sur une jeune fille de 12 ans. Soupçonnée d'être porteuse du virus Ebola, la fillette a provoqué la panique hier dans la capitale centrafricaine. Même si les premiers tests se sont révélés négatifs, le point avec Félix Yepa Sizembo.
Dans la matinée, la fillette transférée de Zongo en République démocratique du Congo au complexe pédiatrique de Bangui présentait des symptômes proches de ceux de la fièvre hémorragique. La nouvelle a créé une panique généralisée au sein du dit complexe et dans la ville. Certains parents ont quitté précipitamment l'hôpital avec leurs enfants. Il aura fallu plusieurs heures pour que le premier test fait par l'Institut Pasteur de Bangui donne un brin d'espoir. Marguerite Samba Maliavo, ministre centrafricain de la Santé.
Selon les résultats que j'ai reçus de l'Institut Pasteur cet après-midi, l'examen qui a été fait sur cette fille pour la recherche de la maladie à virus Ebola est revenu négatif. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. La population doit rester sereine pour nous aider à mieux gérer cette prévention, cette riposte que nous avons entamée vis-à-vis de cette maladie grave.
En attendant, l'enfant et le personnel soignant qui étaient en contact avec elle sont toujours mis en quarantaine provisoirement.
Et coup d'œil maintenant au Sénégal, où le jeune Guinéen atteint de l'Ebola est toujours en quarantaine. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis une semaine, mais les Dakarois restent prudents, comme l'a constaté sur place Idriss Fall.
Devant l'hôpital Fan de Dakar, où a été remis en quarantaine le jeune Guinéen malade de l'Ebola, la vie suit son cours normal. À l'université Cheikh Anta Diop, juste à côté, les étudiants ne semblent pas céder à la panique.
Je m'appelle Amdi Moustapha. On avait un peu peur vu l'ampleur que ce virus a à travers quelques pays d'Afrique. Surtout au moment où on nous a informé qu'il y a un cas ici à l'hôpital de Fan, tout près de l'université.
Moi, je m'appelle Fallou Diop. Ebola, c'est une maladie qui ne se transmet pas à travers les aliments. C'est une maladie qui se transmet par contact ou bien par voie orale. Quand on touche celui qui est malade ou bien quand il vomit, tu touches ce qu'il a vomi. Ou bien quand il y a rapport sexuel, par exemple, avec celui qui a la maladie. Malgré tout, on essaie quand même de voir les manières de manger, les manières de se comporter dans la rue.
Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
La justice norvégienne a confirmé hier en appel que les conditions étaient réunies pour extrader vers le Rwanda Eugène Kouragnabaisi. Se disant de nationalité burundaise, ce Hutu, aujourd'hui âgé de 41 ans, avait été arrêté en mai 2013 en Norvège, où il est établi depuis 1999. Il lui reprochait d'avoir pris part à des massacres dans les localités de Nkakwa et de Siainda qui ont fait quelque 7500 morts. C'était en avril 1994.
Le gouvernement somalien se félicite des frappes américaines qui ont ciblé mardi des chefs du groupe Al-Shabaab, en particulier Ahmed Abdi Godan. On ignore toujours si ce dernier a été tué lors de ce bombardement. À Mogadiscio, le gouvernement intérimaire appelle les Shababs à déposer les armes contre une amnistie. Lola Akomachri.
Cette offre, annoncée hier dans un communiqué du gouvernement, s'adresse uniquement aux insurgés restés dans la capitale. Selon les termes de ce projet d'amnistie, les rebelles pourraient être réintégrés dans la vie civile, à condition de déposer les armes dans 45 jours. Le groupe islamiste qui combat le gouvernement de la Somalie depuis 5 ans n'a pour le moment donné aucune suite à cette offre. Les insurgés de Al-Shabaab gardent également le silence face aux rumeurs faisant état de la mort de leur leader, Ahmed Abdi Godan, visé par le récent raid américain dans le pays. Selon les sources sécuritaires somaliennes et américaines, il y a de très fortes probabilités qu'il soit mort. Au cours des dernières années, Al-Shabaab a perdu beaucoup de ses bastions face aux 22 000 hommes de la force de l'Union africaine et des troupes gouvernementales somaliennes.
Et puis la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, connaît une campagne 2013-2014 record avec près d'1 600 000 tonnes récoltées fin juin. Cela représente une hausse de 19% par rapport à la récolte précédente.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
6h06, temps universel. Dans le reste du monde, le sommet de l'OTAN s'ouvre tout à l'heure au Pays de Galles, sur fond de guerre en Ukraine. La pression sur la Russie, accusée de soutenir les rebelles, s'accentue. Moscou a dévoilé hier un plan de sortie de crise qui pourrait permettre l'arrêt des combats. Le point avec Issia Kaba.
Avant même l'ouverture du sommet, le président ukrainien aura une première réunion avec ses homologues américains, britanniques, allemands, français et italiens. Petro Poroshenko informera à cette occasion ses homologues de son évaluation de la situation sur le terrain et de ses discussions avec le président russe Vladimir Poutine. Moscou a tenté de reprendre la main hier en présentant un plan de règlement du conflit en Ukraine. Ce document a été accueilli avec prudence par les Occidentaux. Dans une tribune commune publiée aujourd'hui dans The Times, Barack Obama et David Cameron rappellent le droit de l'Ukraine à déterminer son propre avenir démocratique. Autre information cette nuit depuis Washington. Le Pentagone annonce que 200 parachutistes américains participeront à un exercice militaire ce mois-ci dans l'ouest de l'Ukraine. Des forces navales américaines doivent participer à un autre exercice qui se déroulera en mer Noire la semaine prochaine avec des effectifs ukrainiens.
Exécution d'un deuxième Américain par l'État islamique, la famille de Stephen Sotloff a réagi pour la première fois hier après la mort de ce journaliste décapité par les djihadistes. De son côté, Barack Obama assure que l'Amérique ne se laissera pas intimider par l'État islamique. Henri Francisque.
En tournée en Europe, le président américain a assuré que les États-Unis continueraient de diriger un effort plus large contre ce qu'il appelle la vision barbare de l'État islamique. M. Obama estime que les frappes aériennes américaines en Irak ont brisé l'élan des militants de l'État islamique et qu'une stratégie régionale est nécessaire pour réduire et détruire le groupe.
We know that if we are joined by the international community,
nous savons que si nous sommes joints par la communauté internationale, nous pouvons continuer à réduire la sphère d'influence de l'État islamique, son efficacité, son financement, ses capacités militaires à un niveau gérable. Il faudra nous assurer que nous avons la bonne stratégie, mais aussi faire en sorte que nous ayons la volonté internationale de le faire. Selon un sondage Reuters-Ipsos réalisé avant le meurtre de Sotloff, 29% des Américains sont contre une nouvelle intervention en Irak. 21% préfèrent des frappes aériennes en appui à l'armée irakienne. Le président Obama prévient déjà que la lutte contre le groupe djihadiste prendra du temps.
Toujours concernant l'Irak, sachez que Human Rights Watch accuse l'État islamique d'avoir massacré 770 soldats irakiens capturés lors de la prise d'une base militaire en juin dernier près de Tikrit.
Al-Qaïda annonce la création d'une branche dans le sous-continent indien. Dans une vidéo diffusée sur Internet, le chef du réseau islamiste Ayman al-Zawahiri affirme que cette branche entend, je cite, anéantir les frontières artificielles qui divisent les musulmans dans cette région.
Des responsables américains et iraniens reprendront tout à l'heure à Genève les discussions sur le programme nucléaire de l'Iran.
Et puis la délégation américaine dirigée par le secrétaire d'État adjoint Bill Burns et le sous-secrétaire d'État Wendy Sherman rencontrera des responsables iraniens jusqu'à demain. Je rappelle que les puissances occidentales et Israël soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique alors que Téhéran affirme que son programme nucléaire est purement civil.
Enfin, on connaît désormais le coût direct de l'offensive militaire israélienne de 50 jours dans la bande de Gaza, 2,5 milliards de dollars, selon le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon.
Voilà pour ce journal, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, la partie magazine à présent. Premier anniversaire au pouvoir à Bamako pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Ibeka, élu avec plus de 77% des suffrages, n'est plus à la fête car de nombreux Maliens se plaignent de ne pas avoir réalisé les promesses de campagne. L'esprit de fête lors de l'investiture du 4 septembre 2013 semble bien loin, comme l'a constaté notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
4 septembre 2013, 4 septembre 2014, un an jour pour jour, Ibrahim Boubacar Keïta, sorti vainqueur de la présidentielle de 2013, avait fait un serment devant le peuple malien.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.
En faisant un tour dans la ville de Bamako, les Maliens égrènent un chapelet de doléances non satisfaites.
Pour moi, ce qui n'a pas marché là, ça c'est le prix de l'électricité qui a augmenté. En plus de cela, le prix des denrées. Bon, jusqu'à présent, on ne sont pas satisfaits pour le prix des denrées.
C'est la gestion du problème du Nord. Cette guerre-là a causé vraiment la perte en vie humaine de pas mal de Maliens. Et surtout, le côté négatif que nos sous-préfets et préfets ont été égorgés, c'était vraiment le côté le plus négatif.
Le panier de la ménagère au Mali, le panier souffre atrocement. Donc on essaie un peu de voir, de donner un peu de la valeur au panier de la ménagère. Si on arrive à faire ce jeu-là, je crois que tout va bien marcher au Mali.
Les défis étaient multiples et variés. Le vainqueur de la présidentielle de 2013 n'a pas su prendre le taureau par les cornes. Conséquence, il y a un grand fossé entre lui et le peuple malien.
Donc, cette première année a été une année un peu difficile. Vous savez qu'il y a eu tous les défis dans ce pays. Défis sécuritaires, défis sociaux, etc., etc. Le problème du Nord, où le président a pensé qu'en venant tout de suite au pouvoir, il pouvait régler le problème. Vous savez que la réalité du pouvoir est tout autre. Le gars a pensé qu'il pouvait régler ça d'un tour de bras, mais ce n'est pas facile.
Son slogan de campagne, le Mali d'abord, s'est transformé à ma famille d'abord, avec son fils qui est devenu député, le beau-père de ce dernier président de l'Assemblée nationale, des neveux et cousins du président qui se taillent des portefeuilles clés dans le gouvernement.
Bon, je crois que Ibeka quand même a commis des erreurs, surtout par rapport au fait que son fils qui est là, qu'il a mis au devant de la scène, son beau-père qui est là, son beau-fils qui est là aussi, qu'il a mis au devant de la scène. Or, tout ceci pouvait attendre après. Sans doute que moi, il ne dit pas, il ne conteste pas qu'ils ont la capacité. S'il conduit comme ça, c'est l'échec. Hein.
Aujourd'hui, les Maliens gardent espoir en se disant que cette première année de gestion n'a pas été une réussite pour leur président. Ils souhaitent que ces derniers se ressaisissent et travaillent avec des Maliens compétents, capables de sortir le pays de sa crise. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Il est 6h13, temps universel. Dans un nouveau rapport, Oxfam s'inquiète des méga partenariats public-privé dans l'agriculture africaine. Selon l'ONG, ils n'ont pas fait leurs preuves et n'ont pas permis de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire sur le continent. Les politiques gouvernementales et l'aide internationale de près de 6 milliards de dollars aux grands partenariats public-privé risquent de fragiliser les droits fonciers des Africains, s'inquiète Oxfam. Camille Grosdidier a joint Mohamed Lamine Ndiaye, directeur de programme Justice économique en Afrique, pour Oxfam.
Nous avons remarqué que ces méga partenariats public-privé ne bénéficient pas toujours aux petits producteurs. Nous avons aussi remarqué que ces partenariats sont le plus souvent dirigés par des pays, souvent du G8, qui favorisent le plus souvent des entreprises qui sont domiciliées dans leur propre pays. Et je pense que dans le rapport, il a été fait mention d'une multinationale comme Yara, qui a eu le privilège de bénéficier de l'aide de la Norvège, où cette multinationale est domiciliée. Et c'est le même cas aussi pour BAT, qui a reçu aussi des aides du gouvernement allemand. C'est deux cas que je vous donne comme ça. Mais je voudrais plutôt mettre la priorité sur une chose. Tout simplement pour dire qu'en Afrique, 530 millions d'Africains dépendent directement ou indirectement de l'agriculture. Et 80% de la population qui cultive est en fait constituée de petits producteurs ou d'exploitations familiales, si on veut. Là, il s'agit de partenariats publics et privés, c'est-à-dire que les gouvernements et les États africains sont en train d'utiliser les ressources publiques pour favoriser l'investissement à grande échelle dans le secteur agricole.
Les investisseurs et les gouvernements font valoir que ce n'est qu'une tentative pour essayer justement d'améliorer les rendements de l'agriculture en Afrique subsaharienne ou ailleurs.
Alors là n'est pas le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait que ces partenariats, que l'on puisse non seulement partager les bénéfices, mais aussi partager les risques. Et parmi les risques, comme vous le savez, il y a le risque foncier, c'est-à-dire les terres qui sont attribuées à ces multinationales agroalimentaires et qui souvent posent des problèmes. Dans les études que Oxfam a menées, nous avons vu aussi que dans la plupart des cas, ces terres sont souvent cédées à des prix vils. Et il y a même un cas, c'était en Tanzanie, où les terres étaient cédées à 1 dollar à l'hectare. Un autre cas, au Brésil, où l'hectare est cédé à 15 000 dollars.
Mohamed Lamine Diaye, d'Oxfam.
Khalil Gueye avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, l'Ebola qui poursuit sa course macabre en Afrique et vient d'apparaître dans un sixième pays, le Sénégal. Les premiers essais cliniques de vaccins sur des humains ont commencé. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur La Voix de l'Amérique.
Le Nigeria remobilise ses voisins pour lutter contre Boko Haram. Abuja a accueilli hier une réunion internationale sur la sécurité et la lutte contre le groupe armé qui menace de s'emparer du nord-est du pays après une série d'attaques fulgurantes ces dernières semaines. Au Cameroun voisin, Boko Haram divise l'opinion, comme l'a constaté notre correspondant à Yaoundé, Jules Lobo.
Décidément, Boko Haram inquiète et divise déjà les Camerounais. Le sujet occupe une place de choix dans les différentes conversations. Professeur Eric Mathias Owonangini, enseignant dans une école de guerre.
Si vous avez des groupes armés qui attaquent différentes localités du territoire camerounais, qui attaquent des symboles de l'État, et particulièrement de l'État disciplinaire, comme les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie, qui attaquent des éléments appartenant aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes clairement dans une dynamique qui vise à installer une rébellion. Cela est clair.
L'identité des auteurs de ces violences armées et autres attaques qui se développent dans le nord du pays ne fait donc plus l'unanimité au sein de l'opinion camerounaise. Biloua Aïssi, ancien commissaire de police.
Ces attaques, les gens qui les font sont camerounais. Pas seulement du nord, hein. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire qu'il y a des gens au nord qui ont décidé de prendre le pouvoir par la rébellion. Comme ça se passe en ce moment, on vous dit, on reconnaît les rebelles du Cameroun et la communauté internationale va fournir des armes. Ce que je dis est ceci. Ceux qui attaquent, non seulement sont Camerounais, mais évidemment, il y a toujours des mercenaires. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, même en barrant la frontière avec le Nigeria, on ne va pas arrêter les attaques.
Face à ce phénomène, certains dignitaires du régime, originaires du Nord, sont à tort ou à raison pointés du doigt. Ces derniers, selon une certaine opinion, profiteraient du label Boko Haram pour agir. Ce que refutent certains observateurs. Thierry Ndon, journaliste, directeur de publication du journal Intégration.
Le Grand Nord n'est pas un tout homogène. Pour ceux qui vivent au Cameroun et qui sont souvent allés là-bas, vous avez au Grand Nord des chrétiens, des animistes, des musulmans et toutes les autres églises réveillées. Vous avez au Grand Nord des Peuls, des Massa, des Si, des Sa. Et chaque groupement se définit non pas en fonction du Grand Nord, mais en tant que groupement précis. Donc vous ne pouvez pas prendre un article aujourd'hui et dire « Le Grand Nord entretient une rébellion ». C'est tout faux.
Complot politique ou terrorisme, la question divise même les spécialistes des questions de sécurité. En attendant d'y voir clair, les populations, elles, continuent de subir les affres des attaques de ces bandes armées. Yaoundé, Jules Lobo, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Nous vous en parlions dans le journal. Les pays membres de l'OTAN se réunissent au pays de Galles pour leur premier sommet depuis 2 ans. Lionel Gaïma, l'ordre du jour est très différent du sommet de Chicago en 2012.
Pour citer le secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen, le monde a bien changé depuis.
We are faced with the reality that Russia considers us.
Nous faisons face à la réalité d'une Russie qui nous considère comme un adversaire et nous nous adapterons à cette situation. Au sommet de Chicago, il était surtout question de l'Afghanistan et Moscou était considéré comme un partenaire pour faire face à des questions telles que le terrorisme et la prolifération des armes nucléaires. Cette année, le débat sera dominé par la réponse à apporter à l'annexion de la Crimée par la Russie et son invasion de l'est de l'Ukraine. La remarque de Rasmussen laisse entendre une plus grande présence militaire de l'OTAN dans les pays membres proches de la Russie comme en Lituanie, ainsi qu'une nouvelle force pouvant réagir de manière rapide et décisive en cas d'attaque contre tout État membre. Mais l'Alliance a dit clairement qu'il n'y aura pas de guerre contre la Russie pour protéger des États non membres comme l'Ukraine. Pour Zinia Wickett de Chatham House à Londres, ce genre de ligne rouge pourrait se révéler contre-productif. Les leaders de l'OTAN vont aussi discuter des moyens de contrer la menace posée par l'État islamique qui occupe d'importants pans des territoires en Irak et en Syrie et terrorise les populations locales tout comme les étrangers. Les États-Unis ont bombardé ce groupe et ils ont, ainsi que d'autres membres de l'OTAN, fourni de l'aide humanitaire aux civils. L'Afghanistan est toujours d'actualité, les talibans sont plus agressifs que jamais, alors que la mission de combat de l'OTAN prend fin en décembre. On attend toujours la signature par Kaboul de l'accord qui permettra ensuite la présence de conseillers et d'instructeurs militaires. Il y a seulement quelques mois, on se demandait si l'OTAN avait une raison d'être après la fin de la guerre froide. La question ne se pose plus, estime Robin Niblett, directeur de Chatham House à Londres. C'est un sommet où tous les États membres de l'OTAN et leurs partenaires doivent être plus actifs et commencer à communiquer entre eux, ainsi qu'avec l'extérieur et leur propre peuple. On a un monde dangereux, il y a une mission pour cette alliance. Les experts et dirigeants de l'OTAN espèrent que les images comme celles qui parviennent de l'Ukraine aideront à convaincre les citoyens des pays membres de financer les moyens d'assurer, d'Europe en Amérique du Nord, une réponse rapide aux menaces nouvelles de ce monde.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Salut Nico.
En basket, c'est historique au championnat du monde en Espagne. Le Sénégal accède pour la première fois de son histoire au 8e de finale.
La Turquie, vice-championne du monde, a défait de justesse la Finlande après prolongation 77-73. Une mauvaise journée pour les représentants africains puisque l'Argentine a défait le Sénégal 81-46. Mais le Sénégal se qualifie tout de même pour le 8e de finale et ce pour la première fois de son histoire. L'Égypte a sombré face à l'Iran, 88-73. L'Angola s'est bien démenée avant de s'incliner en fin de partie, 87-93, face à la Slovénie.
En football, une série de matchs amicaux hier soir. L'Argentine a battu l'Allemagne 4-2 dans le match des retrouvailles. C'était hier à Düsseldorf, moins de 2 mois après la finale du Mondial, gagnée par la Mannschaft au Maracana. À Rio de Janeiro, l'Angleterre a peiné pour battre à Wembley la Norvège 1-0. À Prague, les États-Unis ont battu la République tchèque 1-0. Et puis le Maroc et le Qatar ont fait match nul 0-0 au complexe Mohamed V de Casablanca. Hors des terrains, Timothée, nouvel ultimatum de la FIFA à la Fédération nigériane de football.
En effet, les nouveaux dirigeants du football nigérian, élus la semaine dernière avec l'assentiment du ministère des Sports, ont jusqu'à lundi matin pour quitter leurs fonctions. La FIFA dit qu'elle reconnaît toujours Aminu Maigari comme président de la fédération et exige que ce dernier organise de nouvelles élections sans délai. Maigari avait été détenu au moment des précédentes élections.
Football toujours, l'attaquant togolais Emmanuel Adebayor est revenu à de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'équipe nationale.
Le sociétaire de Tottenham a rejoint les éperviers pour le match de demain contre le Maroc à Casablanca, match comptant pour la première journée des qualifications de la CAN 2015. Il met ainsi fin à plusieurs mois de boycott du 11 togolais dont il dénonçait la gestion.
Enfin en tennis, suite de l'US Open à New York, qualification de Serena Williams pour les demi-finales aux dépens de l'Italienne Pennetta, 6-3, 6-2. L'Américaine rencontrera la Russe Ekaterina Makarova.
Elle a battu la Bélarusse Victoria Azarenka en 2-7, 6-4 et 6-2. La Danoise Carole Wojnacki s'est qualifiée elle aussi pour les demi-finales. Elle a eu besoin que d'un peu plus d'une heure pour laminer l'Italienne Sara Errani en 2-7, 6-0 et 6-1. Son adversaire en demi-finale sera la Chinoise Peng Shuai. Chez les hommes, Roger Federer a eu lui aussi la tâche aisée en huitième de finale, battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 3-7, 6-4, 6-3 et 6-2. Il croisera en quart de finale le Français Gaël Monfils, qui a défait le Bulgare Grigor Dimitrov.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donogmaï pour la page des sports. Nous accueillons à présent dans ce studio un homme en forme pour parler musique. C'est Roger Muntou qui revient de vacances. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. La chanson Boom Clap de l'auteur-compositrice interprète britannique Charlotte Aitchison, plus connue sous son nom de scène, Charlie XCX, a gardé la 10e place dans le hit parade américain. Écoutons.
Roger, ça doit bien marcher pour elle, puisqu'elle a notamment sorti son premier album Studio True Romance, c'était en 2013. On dit même que sa mère est ougandaise.
Nico, Charlotte Aitchison est née à Stevenage dans le Hertfordshire. Elle est issue d'un père écossais et, vous l'avez bien dit, d'une mère indienne de l'Ouganda. Elle a commencé à écrire ses propres chansons lorsqu'elle avait encore 14 ans. Charlie XCX a collaboré, Nico, en 2012 sur la chanson I Love It du groupe Icona Pop. Puis en 2014 sur Fancy Diggy Azalea, une chanson qui continue à cartonner dans plusieurs pays d'ailleurs.
Charlie XCX, Boom Clap. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nico. Coucou à tous nos auditeurs de Niamey.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs, 20h, temps universel, pour le RM Show. Avant de nous quitter, Anne Albertson revient dans ce studio pour le rappel des titres.
L'Organisation mondiale de la santé appelle à une réponse mondiale coordonnée pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, a fait savoir que l'épidémie a déjà fait plus de 1900 morts. Le sommet de l'OTAN s'ouvre tout à l'heure au Pays de Galles sur fond de guerre en Ukraine. La pression sur la Russie, accusée de soutenir les rebelles, s'accentue. Moscou a dévoilé hier un plan de sortie de crise qui pourrait permettre l'arrêt des combats. Al-Qaïda annonce la création d'une branche dans le sous-continent indien. Dans une vidéo diffusée sur Internet, le chef du réseau islamiste Ayman al-Zawahiri affirme que cette branche entend anéantir les frontières artificielles qui divisent les musulmans dans cette région. Et des responsables américains et iraniens reprendront tout à l'heure à Genève les discussions sur le programme nucléaire de l'Iran.
Ainsi s'achève notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. On va saluer les fidèles du monde aujourd'hui. Aminata Silla à Dakar ou encore Jiska Chisabi à Kinshasa. Comme elle, retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamerique.com ou sur notre page Facebook. Anne Albertson et Nicolas Pineau étaient en votre compagnie ce matin en direct de Washington. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.